RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Moi qui vais descendre.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story avec Maître Sandrine Pégan, avocate. Nous sommes avec Charles Consigny, avocat. Jean-Loup Bonamy, professeur de philosophie et normalien. Je vous propose d'accueillir maintenant notre invité Moïse Mitterrand.
RMC, face aux grandes gueules.
Moïse Mitterrand, vous êtes chef d'entreprise ?
Oui.
Vous êtes auteur de « État partout, justice nulle part » chez Chronique Édition.
Alors, vous préconisez une ordonnance libérale pour sauver la France. Vous dites qu'il faut réduire l'État pour faire grossir le patrimoine des Français. Mais vous êtes le vilain petit canard de la famille Mitterrand ?
Alors, c'est pas seulement pour faire grossir le patrimoine. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce titre de « Justice nulle part ». Parce que d'abord, ce qui nous motive, et ce qui crée d'ailleurs les révoltes, c'est le sentiment d'injustice. Mmh. C'est pas tellement la baisse de prospérité. Donc le vilain petit canard de la famille Mitterrand. Alors la famille n'est pas que François. Ils étaient 8 frères et sœurs. Il y avait beaucoup de monde à Jarnac, beaucoup de monde à cette époque.
Beaucoup de gens de droite.
Beaucoup de gens de droite, absolument.
Et puis, dont Mitterrand lui-même.
Dont Mitterrand.
François Mitterrand lui-même.
François était avant 34 dans certains mouvements qu'il aurait peut-être réprouvé quelques décennies plus tard.
Vous l'avez bien connu.
Non, j'ai mal connu. J'ai vu deux fois dans ma vie. Mais j'ai très bien connu Frédéric. Que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié et avec qui j'ai eu la chance.
Nous aussi, on l'a apprécié beaucoup. Il est souvent vu dans les grandes gueules.
Il est cultivé, bosseur, drôle, original, non conventionnel, remarquable.
Mais vous êtes parti pleine balle sur le libéralisme. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que la France en a besoin ?
Parce que, alors, c'est d'abord l'histoire du libéralisme, elle commence avec Turgot qui ne savait même pas qu'il était libéral. Comme plein de Français qui ne savent même pas qu'ils sont libéraux. La lettre de 1774 qu'il écrit au roi Louis XVI, c'est absolument remarquable. C'est un moment exceptionnel de lecture, si jamais les gens en ont l'occasion. Et donc, moi, je suis fils de cet héritage qui passe par Bastiat, par Tocqueville, par Turgot. Et ensuite, cet héritage, il est particulièrement important au moment où on se rend compte que l'État, sous son propre poids, est en train de s'effondrer. Et il emmène la France avec lui. On parle d'effondrement de la France, mais c'est pas la France qui s'effondre. C'est son État qui s'effondre et qui, comme c'est un attribut majeur d'un pays, tombe avec.
Quel en est l'exemple le plus flagrant de cet effondrement alors ?
Alors moi j'ai mon top 3 des injustices. Je sais pas si ce sera le même que le vôtre. Le premier c'est la personne la plus fiscalisée en France, la personne qui paye le plus d'impôts en France. On pense tout de suite à Kylian Mbappé, à Bernard Arnault, à un grand journaliste, j'en sais rien, ou un chef d'entreprise. C'est une personne au SMIC méritante. Parce que la personne au SMIC méritante, comme les cotisations sont très progressives, si vous voulez l'augmenter, elle va payer de plus en plus de cotisations, elle va perdre des aides sociales qui sont concentrées autour du SMIC, parce qu'il y a beaucoup d'aides sociales qui s'arrêtent à 1,05 fois le SMIC, donc juste au-dessus du SMIC, et donc il va se retrouver à payer 100% d'impôts sur son augmentation.
On SMICardise la France.
Ah ben, parce on concentre tout le monde à ce niveau-là.
Les aides sur le SMIC créent une trappe qui fait qu'il n'y a aucun intérêt à augmenter, et donc ça crée une France au SMIC.
C'est parfaitement résumé. Exactement. Vous avez non, mais surtout, on vole le gain au travail de la personne concernée. C'est vraiment quelque chose de très significatif. Et après, on s'étonne qu'il y ait une démission silencieuse. Comment est-ce qu'on peut demander aux gens de bosser plus si jamais on leur prend 100% de ce qu'ils gagnent en plus ?
Alors, ça, c'est le top 1. Top 2.
Top 2, la mortalité infantile. On est à deux fois les scores des meilleurs pays en Europe. On est à 3,7 pour 1000, alors que la Suède, par exemple, est à 1,8 pour 1000. C'est 1000 bébés nés en France qui meurent chaque année prématurément comparé à un ratio d'un pays qui gère mieux sa santé. Et malgré tous les efforts, évidemment, des infirmières et des médecins. Donc la santé, c'est un mini-État. C'est à l'échelle de la santé, vous vous rendez compte des dysfonctionnements de l'État sur le fonctionnement de l'hôpital. Administration excessive et tous les maux qu'on connaît. Le troisième, parce que j'imagine que ça va être votre troisième question, c'est les enfants français derniers en maths.
Au c'est pays ce qu'on voit dans le classement PISA, notamment.
Au pays de Pierre de Fermat, au pays de Pascal, au pays du médaille fils de 2022. Il y a encore une médaille fils l'année dernière, une jeune femme de l'école polytechnique, Wang, je crois qu'elle s'appelle, d'origine chinoise. Au pays, évidemment, de Cédric Villani. Les enfants français sont derniers en maths en Europe. Et ce qui est injuste là-dessus, c'est pas que la moyenne baisse. C'est qu'à Henri IV, en première, ils font de la topologie. Ils font le programme de la licence de mathématiques à l'université. Donc, le niveau baisse en moyenne, parce qu'il baisse très fortement pour les personnes qui sont moins favorisées.
Mais vous dites, la France glisse vers la médiocrité. Ce sont vos termes. Vous dites aussi que l'État est malade de sa bureaucratie. Bon, ça, c'est pas nouveau, hein. Malheureusement, ça fait longtemps qu'on dénonce cette bureaucratie. Vous donnez des chiffres. 483 impôts en France, 486 niches fiscales, 2000 CERFA, les fameux CERFA, et bien sûr, le nombre de fonctionnaires, la difficulté. Alors oui, vous dites, il y a 1,7 milliard de combinaison pour calculer un taux de cotisation sociale. Voilà, c'est ça la bureaucratie. Mais comment on en sort de cette bureaucratie? Parce que c'est tellement la France, la bureaucratie à la française. Il y en a partout de la bureaucratie. Il y en a au sommet de l'État, mais dans nos régions, dans nos départements, à la mairie.
Dans les grandes entreprises.
À la sécurité.
Même dans les grandes entreprises privées.
Et même dans les grandes entreprises.
Absolument.
La bureaucratie, c'est vraiment dans notre culture.
Absolument. Comment est-ce qu'on en sort? On en sort par la démocratie. On est rentré par la démocratie de cet excès de bureaucratie. La bureaucratie, c'est pas mal en soi. La loi écrite, c'est une bonne chose. Et on a besoin de bureaucrates dans une société qui fonctionne. Le problème, c'est l'excès de bureaucratie. Mais on est rentré par 70 ans de paix et de prospérité. On a créé 50 millions de mots dans le droit applicable. 500 millions si vous rajoutez toutes les circulaires, les décrets ou le droit local. Bah, faut en sortir par la démocratie. Et donc, il faut que les Français, on leur soumette un projet alternatif. À une restauration de l'État profonde, et qu'à ce moment-là, ils se disent je préfère ce système-là, et je vais voter pour des représentants qui vont le mettre en œuvre. Donc c'est d'abord changer le regard des 50 millions d'adultes français sur l'État, et qu'ils se disent effectivement, je suis pas condamné éternellement à cette bureaucratie.
Vous dites par exemple, il faut 8 ministères, pas de plus.
Absolument, alors c'est 7, ce chiffre-là doit venir d'un autre document, mais c'est exactement les ministères que vous écririez vous-même si jamais vous deviez concevoir votre gouvernement. Et tous les Français qui nous écoutent de la même manière, c'est ceux auxquels vous pensez spontanément.
Donc des ministres, pas de secrétaire d'État ?
Pas de secrétaire d'État. Cette mission cruciale, indispensable. Notre ligne de partage, c'est vraiment entre l'indispensable et le facultatif. Il faut concentrer l'État là où il est indispensable, pour qu'il soit excellent dans ses domaines, pour que la justice soit pas rendue en 69 mois en moyenne en France pour les affaires criminelles. Hein, c'est 69 mois.
69 mois.
Et donc là, vous créez une injustice supplémentaire. Puisque si le prévenu est innocent, finalement, il a passé 69 mois de procès et la victime, elle a attendu 69 mois pour avoir un jugement. Donc, si vous voulez, vous créez une injustice par la lenteur de la justice et qui n'est pas, j'ai une copine juge, elle bosse très dur. Donc, c'est pas du tout que les gens sont pas au travail. C'est simplement que vous avez un système qui est dysfonctionnel parce qu'il y a 45 ministres et secrétaires d'État et qu'on s'occupe de beaucoup d'autres choses que de la justice.
Oui, mais beaucoup ont intérêt à que ce système ne fonctionne, de continuer. Puisque beaucoup vivent de ce système de bureaucratie, donc c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que la haute fonction publique, elle s'en arrange de tout ça. Les politiques aussi, parce qu'ils ont tous envie d'être ministres. Donc si vous leur dites il y a que 7 ministres, ça va être compliqué. Aujourd'hui, il y en a une trentaine. On n'en connaît pas la moitié. Et encore la moitié, je suis généreux. À mon avis, si on demande aux Français, à part le Cornu et peut-être Darmanin, les autres, ils savent pas qui ils sont.
Vous avez raison. Et c'est pour ça que le libéralisme n'a pas forcément bonne presse dans la sphère politique, c'est parce que d'une façon ou d'une autre, quand l'État est très grand, il réduit la taille de l'État et donc les prérogatives possibles. Il réduit le pouvoir auquel peuvent aspirer les gens qui veulent nous représenter. Donc ça peut être frustrant. Pardon,
Charles Consigny.
Non, mais moi, est-ce que vous allez vous présenter aux élections législatives, par exemple ?
Non.
Ou à une mairie ou...
Parce que c'est un programme, votre livre. Hein.
Parce que c'est un programme politique.
Moi, d'abord, Moïse Mitterrand, c'est un nom. Hein. C'est quand même, ça pourrait presque être un pseudo de rappeur, quoi. Moïse Mitterrand,
c'est un début de blague.
Franchement, il y a pas grand monde qui peut s'appeler, qui s'appelle Moïse Mitterrand. Donc
Kylian
moi, je trouve
Pompidou,
ça très, très intéressant.
Kylian Pompidou,
très intéressant que ça vienne alors qu'on est. La France est en train de revenir au socialisme. Hein, on voit bien le budget Le Cornu a été un budget socialiste. Là, il y a la primaire de la gauche. On est en train de revenir au socialisme en France. Si Marine Le Pen est élue, d'ailleurs, on restera dans le socialisme au fond. C'est ça la réalité. Donc moi, je trouve intéressant d'avoir un Mitterrand qui vient combattre. Ces idées. Mitterrand, donc votre grand-oncle, si j'ai bien suivi, a pris un certain nombre de décisions qui ont coulé la France. La retraite à 60 ans, elle a quand même coulé le pays, et ses disciples ont fait les 35 heures et d'autres mesures qui ont coulé la France. Mais dans ma modeste position, j'ai pas mal de gens comme vous qui viennent me voir ces derniers temps. Ils ont un programme pour la France. Ils ont un programme qui ressemble au vôtre, d'ailleurs. Et que je peux rejoindre, bien sûr, parce qu'il y a plein de gens qu'on aura le bol de ce système. Mais ils veulent pas s'engager pour autant. Et moi, je pense que on ne peut pas faire campagne, on ne peut pas s'engager pour la France depuis sa maison de vacances, depuis son canapé dans un beau quartier de Paris, ou même depuis... Bon, c'est très bien d'être entrepreneur, de faire des livres, de tout ça. Mais moi, j'aimerais que des gens comme vous, puisque manifestement, vous avez travaillé là sur ce livre, vous avez des idées précises, vous semblez être compétent. Bon, après, peut-être qu'on se fait abuser par votre nom, votre veste et votre science, mais bon, on ne sait jamais. Vous avez l'air d'eux, en tout cas, c'est un début positif pour la politique d'avoir...
Donc, tu voudrais qu'ils...
Moi, je voudrais que vous vous présentiez, pas forcément à la présidentielle, parce qu'il y a déjà 78 candidats, mais...
Tout le monde a son dossard.
Par exemple, avoir quelqu'un comme vous au Parlement, ça nous changerait d'un certain nombre d'élus. Donc, ma question, c'est pourquoi ne le faites-vous pas ?
Allez-y, engagez-vous, Moïse.
Alors, monsieur Consigny.
Et les flots s'ouvriront.
Ouais. un professeur de biologie de 4e, il pensait que c'était un canular quand il a lu l'affiche. Donc, monsieur Consigny, pour vous répondre directement, je pense qu'on peut avoir plus d'influence comme citoyen bien informé et comme chef d'équipe dans une équipe resserrée qui porte un projet de gouvernement complet que comme candidat où on se crée essentiellement des ennemis, des adversaires et on doit respecter ses alliés pour avoir une certaine aura.
Après, il faut voter les lois quand même.
Donc je crois d'abord au fait de parler à la société civile et de faire pivoter la société civile, comme dans une certaine mesure, elle l'a fait par exemple sur le nucléaire au cours des 15 dernières années.
Moi, je pense qu'elle est déjà convaincue, la société civile.
Absolument. Et donc il lui faut une solution.
Elle est vraiment convaincue.
Mais il faut
en tout cas de plus en plus de gens qui sont d'accord avec ça, qu'on aura le bol et qui veulent tronçonner joyeusement.
Oui, ils veulent tronçonner, mais sans véritablement avoir, parce que c'est facile de tronçonner. Mais dans les 1100 agences et opérateurs, vous avez Météo France, vous avez des universités, vous avez des musées. Donc ce qu'il faut, c'est faire le travail de fond méticuleux pour dire comment est-ce qu'on fait ces 236 milliards d'économies, d'où est-ce qu'elles viendront, qu'est-ce qu'on interrompt, qu'est-ce qu'on propose aux agents publics qui devront interrompre leur mission. On leur propose 70% de leur salaire pendant 7 ans pour les plus anciens d'entre eux. Si vous ne proposez pas quelque chose de généreux, il ne se passera rien.
Parce que quand même, garde Météo France ou on supprime Météo France ?
On garde Météo France, absolument. Sauf que ça devient un opérateur autonome. Mais néanmoins, évidemment, il y a l'agence, le Conseil national du bruit, l'Agence nationale de la cohésion du territoire, l'Institut même du cheval et de l'équitation. Moi, je monte beaucoup à cheval, j'adore ça. J'ai pas de raison de me faire payer mon loisir.
La commission du débat public, présidée par Madame Joanneau, qui est fort bien payée pour faire ça.
Et on en trouvera des dizaines et des centaines. Nous, on en a trouvé 700.
700 et pour un montant de combien au total ?
Donc au total, on interrompt des administrations qu'on considère facultatives, qui ne sont pas dans les missions indispensables de l'État, et on interrompt des aides et des subventions qu'on considère là aussi comme facultatives. On préfère avoir l'argent directement en billets de 20 euros bleus plutôt que d'avoir l'argent de façon dégradée en prime rénov ou en chèque vacances.
Mais Moïse Mitterrand, les Français sont très attachés à l'État. D'ailleurs, la France s'est construite avec cet État fort. Et d'ailleurs, quand il y a un problème en France, on se tourne vers l'État. Absolument. Cet été, ça a été le cas. Il fait trop chaud. Vite, pourquoi l'État n'a pas climatisé nos écoles, etc. Il y a eu les incendies. Alors, l'État, pourquoi l'État n'a pas acheté des canadaires supplémentaires ? Donc, à chaque fois, nos regards sont portés vers l'État et on attend une solution. Et d'ailleurs, on se rend souvent compte que l'État est défaillant, n'a pas anticipé, n'a pas investi, etc. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a une révolution à faire. Il faut que chacun se prenne par la main avant de demander tout à l'État.
Vous n'avez cité que des sujets où l'État est indispensable, où l'État est dans son rôle, justement, de faire bien ce rôle. La prévention incendie, c'est un rôle crucial de l'État. Et donc, c'est pas normal qu'on se retrouve avec deux fois moins de canadaires qu'il y a 20 ans pour une forêt qui est plus grande.
Mais quand une entreprise est en difficulté, on va aussi se tourner vers l'État en disant...
Là, on n'a pas de raison de le faire.
Venez nous sauver.
Là, on n'a pas de raison de le faire.
Souvenez-vous Lionel Jospin, puisqu'on parlait de votre grand-oncle. Lionel Jospin, un jour, à la télévision, devant une caméra, avait dit « l'État ne peut pas tout ». Alors ça, on lui avait reproché, ça lui a coûté la présidence de la République, parce qu'un socialiste qui osait dire « l'État ne peut pas tout », c'était un crime de lèse-majesté. Donc on voit bien que c'est compliqué quand même de changer de mentalité.
L'État n'existe pas, il n'a que les moyens qu'on lui donne. Il n'a que l'argent qu'il peut prélever de force aux Français. Il n'a pas d'argent lui-même. C'est pas le patrimoine des ministres qui paye telle politique publique. Donc peut-être que Monsieur Jospin, à travers cette phrase, rappelait simplement
de votre famille aussi.
Une réalité.
Non, il n'était pas de votre famille également.
Non, pas celui-là. Le côté de ma mère, il n'y a pas de personnalité politique.
Nordine Jospin, rappeur dans le 93.
Moi, il y a un copain qui m'appelle Abraham Chirac. Vous voyez.
Abraham Chirac.
Vous restez avec nous, Moïse Mitterrand, parce que vous avez dit que la France glisse vers la médiocrité. Alors, c'est un livre de constat, mais c'est un livre de proposition aussi. On l'a bien compris. D'ailleurs, vous avez un long passage sur les impôts. où vous dites il faut fusionner. Je ne sais plus à combien vous arrivez d'impôts, 6 ou 8
5 impôts principaux, voilà. Et quelques impôts qu'on gardera comme la cigarette.
Alors, justement, vous allez continuer de développer ce raisonnement. Est-ce que vous y allez à la tronçonneuse, tiens, avant de faire la pause publicitaire, pour prendre l'exemple de Javier Milei, c'est ça ?
C'est un peu ça.
Vous êtes un tronçonneur ou pas ?
Je suis pas un aussi bon comédien que lui. C'est pour ça qu'il faut, laisser les campagnes politiques à des gens dont c'est le métier et dont c'est le rôle d'être des grands communicants. Et donc nous, on y va à la démocratie.
Eh bien, justement, vous allez continuer de développer ça. Moïse Mitterrand, auteur de L'État partout, justice nulle part, chez Chronique Édition. Quels sont les impôts qu'il garde, quels sont les impôts qu'il met en place. Alors, on continue d'en discuter dans un instant, et des questions de Jean-Loup Bonamy, Sandrine Pégan et Charles Consigny.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Il s'appelle Moïse Mitterrand, il est chef d'entreprise et il sort un essai « État partout, justice nulle part ». C'est chez Chronique Édition, dans lequel il propose une vraie révolution libérale. Mais il l'a dit lui-même juste avant la pause, pas la tronçonneuse. Moïse Mitterrand, vous êtes trois auteurs en fait, hein, dans ce livre. Et alors vous proposez aussi de fusionner les impôts et d'être sur 5 impôts en fait, principaux. Lesquels ? Comment vous faites ?
Alors, les 5 impôts qui vous verrez immédiatement à l'esprit, que vous connaissez par cœur, l'impôt sur les sociétés, la TVA, l'impôt sur le revenu, les cotisations, la taxe foncière. Donc les impôts que tout le monde connaît et que tout le monde trouve légitimes. On juge pas quels sont les impôts qui sont moraux, pas moraux. Pour nous, tous les impôts sont dans une certaine mesure immoraux. Ils ont juste pour vocation d'être efficaces pour pas avoir trop d'impact sur l'économie du pays à long terme.
Excusez-moi.
Je vous coupe.
Ouais. 0% de droits de succession. Suppression pure et simple des droits de succession.
Alors,
ou pas?
Pas tout à fait, parce qu'on conserve les droits de mutation à titre onéreux, les DMTO. Et en fait, on considère que l'État ne peut pas prendre 45% de votre bien parce qu'il y a un nom qui change sur un titre de propriété. Parce que ça, c'est de l'extorsion. Ça n'est pas une prise légitime d'impôt. Donc c'est pas une question de est-ce que les gens sont riches, pas riches, etc. Vous ne pouvez pas prendre 45% d'un bien parce que vous changez un nom sur un titre de propriété. C'est vous saisissez une occasion qui est la mort d'une personne pour extorquer en fait la famille concernée. Donc là, on le traite exactement comme n'importe quel changement de titre de propriété, les droits de mutation. Et en revanche, on maintiendra la plus-value. Parce que le problème des droits de succession tels qu'ils sont aujourd'hui sur les très grandes fortunes, c'est que en plus vous nettoyez la plus-value. Donc vous avez l'avantage du Dutreil, et on va pas rentrer trop en détail, mais vous avez l'avantage de baisser vos droits de succession comparé à quelqu'un qui potentiellement aurait moins de patrimoine parce que vous transmettez une entreprise. Mais en plus, vous effacez la plus-value au moment de la succession. Et ça, c'est injuste, et donc on l'interrompra.
Donc, 4 grands impôts pour fusionner toute la fiscalité, c'est ce que vous proposez.
L'égalité devant la principale contrainte de l'État, qui est l'impôt.
Les aides sociales.
L'égalité devant la loi. Oui, et la suppression des 486 niches fiscales. L'égalité,
toutes,
pas
10%. Vous les supprimez toutes.
Pas 10%, pas 5%.
La suppression de la totalité. L'égalité devant la loi, c'est que vous remontez la TVA, par exemple pour les restaurateurs, pour que ça soit la même TVA pour le coiffeur que le restaurateur.
Absolument.
À 20%.
Il n'y a pas de raison que quand on se coupe les cheveux, on paye une TVA beaucoup plus élevée que quand on va se restaurer. Mais en revanche, le restaurateur, il bénéficiera du fait d'avoir beaucoup moins d'impôts de production, d'impôts sur les produits, puisqu'évidemment, il y a beaucoup d'impôts indirects. Et puis, par ailleurs, il aura une clientèle qui sera beaucoup plus prospère. Puisque le cœur de notre projet, le fameux co-auteur, en fait, la raison pour laquelle on s'est dit il faut y aller, c'est Arthur qui un jour me dit « Arrête de me parler d'économie de l'État, ce qui compte c'est de restituer l'argent aux Français qui bossent ». Et donc le cœur de notre projet c'est les 236 milliards, on les rend aux salariés et on les rend aux citoyens français.
Donc le cœur du projet c'est d'augmenter le salaire des Français.
Absolument, on supprime la CSG-CRDS, les trois lignes qui apparaissent dans votre fiche de paye. Et ça vous permet d'avoir une augmentation de 13% de votre salaire net.
Et vous fusionnez les aides sociales.
Et on fusionne absolument toutes les aides sociales, puisqu'il y a 2160 dispositifs d'aide aux particuliers.
2160.
Ouais.
C'est une allocation unique.
Et on fait une aide fondamentale, ce qu'on a appelé l'aide fondamentale, qui est évidemment que personne ne tolère qu'une personne puisse tomber dans la misère parce qu'elle n'a pas du tout envie de travailler.
Quel serait son montant ?
550 euros.
Donc 550 euros pour que les gens évitent de tomber dans la misère.
Exactement, et 275 euros par enfant.
C'est une sorte de revenu universel ?
C'est une sorte de revenu universel. Il faut reconnaître que dans un pays qui a 2160 aides, vous ne passerez pas de 2160 à zéro.
Ouais.
Vous passerez à une, si vous voulez un système très lisible. Mais un pays qui est quand même aujourd'hui un pays relativement prospère, où on a certaines choses en abondance, c'est inacceptable que vous ayez des gens qui tombent dans la misère, même si ils sont dans une période particulière de leur vie.
Sandrine ?
Vous parliez tout à l'heure de justice, forcément, ça m'interpelle. Si je comprends bien, en fait, vous voulez quand même recentrer l'État sur le régalien, donc la défense, la sécurité et donc la justice. Moi, je m'interroge juste sur une chose, parce que, et peut-être que vous allez me rassurer, mais vous voulez une suppression de 580 000 postes d'agents publics. Et on est bien d'accord que tout ce qui est magistrat, greffier, etc., ça en fait partie. Moi, je vous le disais en off, j'étais encore hier au tribunal judiciaire de Bobigny et avant-hier à Créteil, et je vous avoue que j'ai pas vu du tout un seul poste superflu. Et au contraire, moi, je dirais, ils sont en manque de personnel. Et vous le disiez tout à l'heure qu'il y a un délai de 69 mois pour pouvoir parvenir à un jugement. Et donc, en attendant, ben, nous, en tant qu'avocats, on est en train de gérer soit le prévenu, soit la partie civile. Qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à la justice ?
Vous avez 100 fois raison, madame. Ce qui s'est passé, c'est que l'État s'est éloigné de ses missions indispensables. Il s'est éloigné des missions pour lesquelles il existe et où on ne veut surtout pas le remplacer par du privé. Vous n'avez pas du tout envie d'être jugé par un juge qui est dépendant d'un actionnaire. Vous voulez que sa tutelle, ce soit le gouvernement et la démocratie. Donc on est 100 fois d'accord, la justice a été paupérisée parce que l'État s'est dispersé un peu partout et donc évidemment qu'elle souffre d'un déficit sans doute de moyens et sans doute surtout d'attention de son Premier ministre et son ministre parce qu'il s'occupe de 1000 choses différentes.
Donc vous conservez bien notre ministère.
Donc et là où vient, je pense, votre intuition, c'est que beaucoup de gens parlent de non-remplacement de fonctionnaires qui partent à la retraite parce qu'il y a un certain consensus qui émerge sur le fait qu'il y a peut-être un peu trop d'agents publics. Qu'on est le record en Europe, parce que voilà, il y a un certain consensus, et même de la part des fonctionnaires, ils sont 54% aujourd'hui à se dire qu'ils sont peut-être trop nombreux. Ouais. Donc il y a un consensus national sur le fait qu'il y a peut-être trop de fonctionnaires, et pourtant ils sont méritants, mais tout le monde parle de la solution du non-remplacement. Ça aggraverait le problème. Parce que si vous gardez les mêmes missions, mais que ces missions elles sont accomplies par moins de gens, sans réfléchir à fondamentalement ce que doit faire l'État, en fait, vous ralentissez la machine. Donc.
Oui.
Et donc, ce qu'il faut, c'est dire aux 580 000 personnes concernées qui ne sont évidemment pas au ministère de la Justice, évidemment pas dans les ministères régaliens, même pas administratifs. Ils sont dans les 700 agences, opérateurs et au conseil et au commissariat qu'on interrompt. Et ils sont dans les trois tranches de millefeuille territoriale qu'on fait disparaître.
J'ai une question. C'est que, en fait, je trouve que là, vous nous présentez les choses de manière un peu irénique, un peu bisounours. C'est-à-dire qu'on est surendetté et il suffirait, vous avez raison d'ailleurs, de dire qu'il faut lutter contre les gaspillages, mais il suffirait de lutter contre les gaspillages et de rationaliser tout ça pour régler la question. Mais vous le savez, quand même, l'une des raisons des problèmes de la France, c'est l'excès de dépenses sociales. On représente 1% de la population mondiale et on dépense 15% des aides sociales, retraites comprises, qui sont versées sur la planète. 1% de la population, 15% des aides sociales mondiales. Et là, c'est plus douloureux, parce que supprimer les 700 comités Théodule, à part les quelques-uns qui en profitent, tout le monde est d'accord. Mais quand il faut tailler dans le dur, le social, par exemple, sur la retraite, qu'est-ce que vous proposez, Moïse Mitterrand ? Et après la question du buisson ardent Consigny, mais le buisson ardent Bonamy pose à Moïse Mitterrand,
quel
que proposez-vous sur le social en général ? Merci.
Quelle culture !
Incroyable.
Merci, biblique ! Et donc, que proposez-vous sur les retraites ?
Ça me paraît inimaginable de demander aux retraités français de faire une baisse des retraites dans un contexte où le pays, mais n'est pas encore en situation de faillite économique avérée, sans que l'État ait fait une profonde réforme de son fonctionnement et une interruption de des missions qui sont facultatives.
Donc ça, c'est un message envoyé à Sébastien Lecornu qui s'apprête à faire la poche de certains retraités pour boucler son budget.
Donc il y a en revanche deux choses, si on peut être exhaustif sur ce sujet. Il y a une disposition, vous savez, sur l'impôt sur le revenu avec un abattement pour frais de 10% sur les retraités qui payent l'impôt sur le revenu. Donc c'est seulement les 45% de retraités les plus aisés. Et ça, elle disparaît avec les 487 autres niches fiscales. Elle n'a pas de raison d'être. Et donc on en supprime 486, et ben elle fait partie d'entre elles. Donc c'est une niche fiscale qui ne représentera pas grand-chose comparée à la restitution patrimoniale dont bénéficieront ces retraités, puisqu'il y a 600 milliards d'actifs de l'État qu'on restituera aux Français. C'est pas rendre, hein, c'est restituer, ouais. Puisqu'on leur a pris des choses qu'on n'aurait pas dû leur prendre, et donc on leur restituera. Donc les retraités français se retrouveront avec 10 000 euros de patrimoine supplémentaire. L'impact
dans la France de la Moïse
fiscale,
Mitterrand, à quel âge quand on lit le décalogue, les tables de la loi de Moïse Mitterrand, à quel âge part-on en retraite dans la France de Moïse Mitterrand ?
On choisit son âge.
On choisit son âge.
Voilà. On pivote sur les 25 prochaines années vers un système par épargne. L'épargne est beaucoup citée dans la Bible, puisque vous voulez vraiment faire référence à l'Ancien Testament. Et donc l'épargne est citée de façon répétée. Et évidemment, c'est pas des systèmes de
donc, capitalisation. Donc par capitalisation.
Bien sûr, il faut. C'est une décision
fin du
intime d'arrêter
par
de bosser. Et il n'y a pas de raison que ce soit juste un choix pour les gens qui sont les plus aisés.
Vous faites pas mal de propositions qui peuvent sembler un peu à contre-courant de ce que vous êtes, c'est-à-dire un esprit plutôt libéral, puisque vous proposez un compte éducation que vous abondez dès la naissance à, il me semble, hein, c'est votre proposition, à 6600 euros.
En fait, c'est très libéral.
Mais justement,
classique des libéraux.
L'État qui verse jusqu'à 18 ans, enfin, qui verse 6600 euros.
Charles Gave propose la même chose, alors, c'est assez classique.
Pourquoi?
Et Hollande qui nous propose un chèque électoral.
Alors, à l'origine, ça date des années 70. Hein, c'est les mouvements de réaction, entre guillemets, à l'étatisme des années 70 qui ont commencé à proposer ce qui s'appelait, grosso modo, l'argent suit l'enfant. Et donc, on considère que c'est une fonction de financement par la collectivité de l'éducation qui est encore nécessaire parce que on forme les futurs citoyens de l'État. De la nation, justement. On n'est pas des citoyens de l'État, on est des enfants de la patrie et pas des enfants de l'État. Et donc, on considère que ce soit financé par la collectivité, c'est normal. Mais qu'en revanche, c'est aux parents de choisir l'école de leurs enfants. Et que ça n'est pas à la carte scolaire de le faire. Et qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait 17% de personnes aisées en France qui peuvent choisir l'école de leurs enfants et les mettre dans le privé en double payant, et qu'il y ait 83% des gens qui n'aient pas le choix et qui soient obligés d'être assignés à carte scolaire. Et que finalement, le libéralisme, il est pour les gens qui choisissent leur resto, qui choisissent leur appart, qui choisissent leur école, et les autres, c'est HLM, chèque restaurant et carte scolaire. Et donc, on considère que l'éducation, effectivement, doit être financée par la collectivité, mais que c'est aux parents de choisir l'école de leurs enfants.
Mais vous, on voit à travers vos propositions, vous proposez un vrai, véritable changement de société, un bouleversement de société. Les deux qui proposent le bouleversement de société vers lesquels les Français vont voter potentiellement, c'est Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous pensez de leur modèle ?
Écoutez, je ne vais pas donner des bons points et des mauvais points à chaque candidat. Je vous laisserai le faire juste après moi. Mais j'avoue
parce que tous deux ont prétention de sauver la France. C'est ce que je veux dire.
J'avoue que de toute façon, le réflexe de la plupart des dirigeants politiques aujourd'hui est plutôt un réflexe de recours à l'État.
Oui, c'est ça. Plus d'argent public.
Ouais. C'est une habitude. Vous disiez.
Ce sont deux programmes étatistes.
Monsieur Consigny, qu'on est en train de revenir dans le socialisme, je pense qu'on n'en est jamais sorti. En fait, depuis 81, on n'est pas sorti. Le clivage droite-gauche, il n'est pas valable sur le rôle de l'État. On n'a pas de discussion démocratique et raisonnable sur quelle est la taille idéale de l'État. Est-ce que c'est 57% de la richesse nationale, comme c'est le cas aujourd'hui en France, donc 2 euros quasiment sur 3 qui partent en dépenses publiques, ou est-ce que c'est 30% qui est plutôt ma conviction? 10% de régalien, dont une bonne part à la justice,
merci.
Et puis 20% de protection sociale. Mais ça, c'est un chemin. On a un chemin à faire jusqu'à y parvenir, sans doute une vingtaine d'années.
Donc nous, ça on va a prendre la première 20 étape. Ans.
Bah oui, parce qu'il y a une très grande partie des dépenses, comme le soulignait Jean-Loup, qui viennent des dépenses de retraite, et que le pivot du système par répartition vers l'épargne individuelle, il prend une génération, puisque évidemment, on a donné des retraites à des gens qui n'avaient pas cotisé au début du système en 47. Donc mécaniquement, ça prend.
Merci Moïse Mitterrand d'être venu tailler vos propositions. Si ça vous intéresse, si vous avez envie de lire, ben vous retrouvez ça chez Chronique Édition. État partout, justice nulle part. Moïse Mitterrand, merci. Dans un instant, suite des GG avec Sandrine Pégan, Charles Consigny, avec Jean-Loup Bonamy. On va vous raconter les coulisses de ce qui se passe en ce moment, la manière dont les partis politiques mettent la pression sur les médias. Nous-mêmes ici, à BFM TV et RMC, on en est parmi les premières victimes. Le Pen Mélenchon, la stratégie de pression sur les médias, les coulisses qu'on vous raconte, et on en parle ensemble au 32-16.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Complètement. Pas qu'on allait. Mais c'est de mettre la pause. Les grandes gueules sur RMC, RMC Story, Sandrine Pégan, Jean-Loup Bonamy, Charles Consigny, voilà nos trois grandes gueules. On entre dans la campagne présidentielle, on y entre tambour battant, et ce qui est amusant aujourd'hui, c'est de voir la manière dont les responsables politiques et les partis mettent la pression sur les médias.
Trois façons de réagir à la critique.
Il souffre beaucoup, M. Mélenchon, notamment, des critiques qui sont faites aux politiques. Et pourtant, qu'est-ce que vous les méritez ?
Différentes manières de réagir face à la critique.
Elle regarde ailleurs parce qu'elle a peur. Et elle a bien raison.
Et il y a essentiellement deux partis aujourd'hui qui jouent à un jeu de pression contre pression avec les médias, c'est la France Insoumise et le Rassemblement National. Et ici, on est bien placé pour le savoir.
Alors, il ne s'agit pas de se victimiser, on est des grands garçons, on sait se défendre. Ça fait quand même suffisamment longtemps qu'on fait ce métier pour ne pas être dupe que lorsqu'on rentre dans une campagne présidentielle, il y a des pressions de toutes parts. Mais là, c'est vrai, coup sur coup, la même semaine, les deux formations que sont LFI et le Rassemblement National ont fait vraiment pression sur BFM. La France Insoumise a décidé officiellement, et d'ailleurs a communiqué là-dessus, de boycotter pendant une semaine BFM TV. Et le Rassemblement National, Marine Le Pen, a décidé aussi de protester. Alors pourquoi la France Insoumise n'a pas supporté, semble-t-il, que Mathilde Panot dise sur notre plateau dimanche dernier qu'elle était pour l'interdiction de la baïa. Elle répondait à une question, visiblement ça leur a déplu. Et puis Marine Le Pen trouve qu'on parle trop de la guerre, entre guillemets, la guerre, peut-être le mot est très fort, mais des bisbilles entre Bardella. Marine Le Pen et Jordan Bardella.
Oui, voilà. Elles veulent le tuer en silence.
Que les responsables,
elle ne veut pas que ça se dise.
Que les responsables politiques ne soient pas d'accord avec ce que racontent les journalistes, ça existait de tout temps. Mais là, il y a une pression très forte exercée, et quand on appelle à boycotter les plateaux, ça pose un problème, parce que nous, on est soumis quand même à l'égalité et l'équité du temps de parole, c'est qu'on est, dans l'obligation, hein, c'est la loi, de recevoir tout le monde. Alors si il y a deux formations politiques de premier plan qui disent à un moment donné on ne vient plus, ça rend quand même difficile l'exercice de notre métier.
C'est surtout que le téléspectateur ne connaît pas forcément les coulisses. Non, c'est-à-dire que jamais. Lui, il se dit tiens, mais pourquoi je vois personne du Rassemblement National ou personne de la France Insoumise sur les plateaux ? Sauf que, bon, là, heureusement, il y a les réseaux sociaux et puis il y a des communiqués, ça commence à être public. Mais sachez-le, on reçoit des coups de fil en disant on viendra pas chez vous parce qu'on n'a pas aimé la manière, on n'a pas aimé votre bandeau,
on n'a pas aimé cette question,
on n'a pas aimé votre wall, parce qu'on appelle un wall, vous savez, c'est quand il y a un journaliste qui est debout devant le mur d'image et qui fait un petit exposé. Et on appelle le service politique, on appelle la direction en disant nous ne viendrons pas ou nous ne viendrons plus. Ben non. Ça se fait pas. Alors, il y a un moment, bien sûr, parce qu'ils ont besoin de nous quand même pendant les campagnes électorales, ils reviendront, mais c'est pour que le téléspectateur sache en toute transparence ce qui se passe en coulisses.
Oui, parce que l'objectif, c'est de faire vivre le pluralisme, de pouvoir accueillir tout le monde. Donc, il faut que tout le monde l'accepte et que la liberté d'expression, elle n'est pas négociable.
Jean-Loup. Alors,
moi, je vais dire deux choses. Une première, je vais donner un petit cours d'histoire.
Une seule chose.
Je vais donner un petit cours d'histoire.
Ça va être long,
ça
alors.
Ça y est, oui.
Si, mais tu vas voir, c'est punch. Si le 6 février 1934,
oui.
L'extrême droite nationaliste, dont François Mitterrand faisait partie à l'époque, et les communistes s'étaient alliés pour mettre dehors, pour renverser à bas la vieille république complètement vermoulue, eh bien la France aurait été régénérée et 6 ans plus tard, elle n'aurait pas perdu face à l'Allemagne hitlérienne en 1940. Aujourd'hui, si Marine Le Pen et Mélenchon s'étaient alliés, comme on avait pu le voir par exemple dans les années 2010 en Italie, l'alliance entre Beppe Grillo, le mouvement 5 étoiles populiste de gauche, et la Ligue du Nord nationaliste de droite qui s'étaient alliés ensemble, eh bien, si on avait vu ça en France, si on avait vu une alliance Marine Le Pen-Mélenchon contre le système pour balayer, eh bien, la France se porterait nettement mieux. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Ils ont pris des chemins radicalement différents. Plutôt qu'une alliance des populistes, ils ont pris des chemins antagonistes, consistant au contraire à surjouer leur opposition. Eh bien, c'est bien malheureux pour le pays qui, du coup, reste au malpropre du bloc central. Voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et deuxièmement, sur le fond, je vais très vite.
Il reste très peu de temps pour les
choses. Je trouve que cette façon de boycotter les chaînes de télé est grotesque. C'est vraiment la société des offensés. Dès qu'on dit un truc qui ne te plaît pas, oh je ne viens plus, c'est vraiment un comportement d'enfant de 6 ans tout à fait ridicule. Si vous avez un message à dire, venez n'importe où, vous pouvez le faire passer. Même Charles. Si vous n'êtes pas content des bandeaux et des walls.
Charles.
Moi, je serais un tout petit peu plus nuancé que Jean-Loup. Je pense que...
Qui vient quand même de renverser la République.
Ce sont des luttes de pouvoir. Les médias aujourd'hui ont beaucoup de pouvoir. Les hommes politiques l'exercent ou aspirent à le conquérir. Et donc, il y a des luttes de pouvoir entre les politiques et les médias, de la même manière qu'il y en a entre les... responsables politiques et les juges, ou entre le monde économique et les responsables politiques. Tout ça, c'est des conflits de pouvoir. Ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'il y a des règles sur les temps de parole qui font que, forcément, les chaînes sont mises en porte-à-faux et en difficulté quand telle ou telle partie décide de boycotter telle ou telle chaîne. Et ça, c'est pas acceptable. Ou alors, il faudrait prévoir un système de dérogation à partir du moment où c'est un parti en particulier qui refuse de venir sur une chaîne pendant X temps. on considère que sur la période en question, le temps de parole de ce parti a été accordé.
Sûr.
Évidemment qu'il faut un système comme ça, parce que sinon
c'est trop facile.
C'est trop compliqué pour les chaînes.
Et trop facile pour ceux qui boycottent.
Ouais, pour le reste, moi, ce que je trouve intéressant dans les deux cas, c'est que, au fond, ce qu'a fait le média en l'occurrence, a été d'appuyer là où ça faisait mal. C'est-à-dire, s'agissant de Mélenchon, c'est une question à Adam Panot, qui est tombée dans le panneau, si j'ose cette excellente boutade. Donc c'est en fait une réponse qu'elle a donnée qui les dérange, donc ça c'est quand même intéressant.
Ça ne vient pas du tout de la chaîne.
C'est même pas une révélation qui aurait été faite par la chaîne, c'est vraiment une réponse. Bon. Et ensuite, s'agissant de Marine Le Pen, tout le monde voit bien, puisque Bardella s'en cache en fait pas vraiment, qu'il y a un conflit avec Bardella. Et donc c'est normal dans ces cas-là que les médias racontent cette histoire.
Mais Marine Le Pen veut tuer Bardella en silence. Elle veut l'étouffer, mais sans que ça se sache et sans que ça
se dise.
Oui,
mais ça dit quelque chose de... Ce sont des gens qui aspirent
à prendre le pouvoir.
Au pouvoir suprême.
Mais oui, c'est ça.
Donc ça peut inquiéter. C'est-à-dire que
ça va s'aggraver au fil de la campagne.
Mais espérons que ceux qui agissent ainsi, lorsqu'ils seront au pouvoir, seront les garants quand même de la liberté, de l'indépendance et du pluralisme. Sinon, ça va être compliqué.
Même moi, je m'interroge sur autre chose, parce que bien évidemment que c'est très dérangeant profondément qu'un responsable politique dise ben non, je viens pas sur tel média parce que j'ai pas aimé la question que vous m'avez posée. Mais quand tu disais gouverner et être au pouvoir, ben donc ils vont faire comment quand ils vont être agacés face à une contradiction d'un quand ils vont gouverner. Ben oui, c'est pour ça que.
Mais ils s'en cachent pas. Du côté de la France Insoumise, on a dit qu'on fermerait, on démantèlerait une chaîne. CNews. Et du côté du Rassemblement National, privatisera le service public. Après, tu peux très bien privatiser le service public en disant il y a trop de chaînes, mais il faut garder quand même une partie du service public.
Mais je crois très bien que dans ce cas-là, il y aura une purge.
Je crois qu'on peut le dire.
Comme il y avait dans les années 70 et 80.
En fait,
c'est un retour vers le passé en 2026, là où au contraire, on demande plus de liberté. La liberté sera sur Internet.
En tant que membre des GG, on peut quand même le dire, on constate à l'intérieur de l'émission que les règles sur le temps de parole sont extrêmement strictes, extrêmement tatillonnes. C'est une contrainte énorme pour une chaîne de télévision.
C'est à la seconde près.
C'est un truc de dingue. Bon, ok, c'est un choix. Mais
c'est respecté en plus.
Et c'est respecté. Et
on le prend des amendes.
Ouais. Mais quand, comme Charles le disait, c'est court-circuité par les politiques eux-mêmes qui boycottent, et du coup, ça devient un casse-tête insurmontable pour les stations de radio, les chaînes de télé. Donc, il y a un moment, en effet, il faudrait que, ta non-venue est quand même décomptée de ton temps de parole,
exactement.
Puisque c'est toi qui as décidé librement de ne pas venir.
Exactement.
C'est le même tarif, frère.
On comptait les invités sur une demi-heure, ils ne sont pas venus, on demande la demi-heure.
On l'a invité, le gars n'est pas venu, désolé, Rouillat, quoi.
On a quand même commencé les GG avec la liberté d'expression, on termine avec la liberté et le pluralisme, c'est beau quand même.
Et puis dans les cas où la chaîne est obligée de programmer Jean-Loup en compensation en dernière minute, il faudrait infliger une amende aux questions pour le reverser aux téléspectateurs.
On a Greg qui est avec nous, Greg de Tourcoing. Bonjour Greg.
Bonjour les GG.
On voulait vous raconter un peu les coulisses là, de ce qui se passe en ce moment, qui va continuer au fur et à mesure qu'on va rentrer dans la campagne électorale. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, alors, Greg?
Moi, je trouve ça ridicule, cette pression, surtout s'en prendre à BFM et RMC. C'est pas pour vous cirer les pompes, mais je pense que vous essayez quand même de respecter la parité du temps de parole pour tout le monde. Donc, à un moment donné, faut arrêter. Je pense que ça cache c'est l'arbre qui cache la forêt. Ça veut dire qu'on fait les pleureuses et puis ça, c'est comme ça.
On veut se victimiser.
On se victimise et puis comme ça, on essaye de gratter.
C'est tellement dans l'air du temps.
C'est toujours bien de se mettre en position de victime.
Oui, mais est-ce que taper sur les médias ou faire des médias le bouc émissaire, c'est vieux comme le monde, comme le rappelle.
C'est vieux comme les campagnes présidentielles.
Est-ce que ça vous rapporte des voix? Est-ce que ça fédère votre électorat en disant, voyez, c'est eux les méchants, ils nous aiment pas, ils
critiquent.
C'est la technique, vous dites, Greg.
C'est la technique et ça cache le fond. Ça veut dire que pendant ce temps-là, il y a pas de problème de fond qui est proposé. Je prends l'exemple de l'abaya. Enfin, franchement, remettre ou pas l'abaya, les Français, je pense qu'ils sont contre fous. Ils ont tellement d'autres problèmes et tellement d'autres soucis, que ça soit les hôpitaux, le pouvoir d'achat, la sécurité. Enfin, il y a tellement d'autres soucis avant de mettre en avant des mesures populistes comme ça. Donc, il ferait bien de chaque parti de se remettre en question. et d'arrêter de nous servir un plat qui est réchauffé, qui est vraiment plus bon depuis des années.
Merci Greg d'avoir été dans
le jeu. Je profite de cette occasion pour annoncer que dans les grandes gueules, nous allons recevoir tous les candidats à la primaire socialiste, les 6, de Raphaël Glucksmann, Olivier Faure, en passant par Gage, Philippe Brun, Emmanuel Morel et Ségolène Royal.
Ils seront tous.
Enfin, tu vas le découvrir.
Je ne connais
ils
pas
seront tous
toi.
Face au GG. Voilà, ça sera la primaire, mais à la mode GG.
Jérôme Rodriguez, qui est candidat à la primaire du PS.
Merci Sandrine, Jean-Louis, Charles.
Il a soutenu Macron.
Dommage que Hollande ne veuille pas faire la primaire.
Passez un bon week-end, monsieur l'ancien président de la République. On aimerait bien
qu'il y ait des inscriptions. C'est jusqu'au 15 septembre.
Il faut payer 15 euros, non?
C'est le suffrage censitaire.
Pour voter.
C'est le suffrage censitaire.
Passez un bon week-end. Estelle Denis arrive. Ça va être le temps d'Estelle midi en direct jusqu'à 15h. Bonjour ma chère Estelle.
Bonjour Alain, bonjour les GG. Nous allons évidemment parler de cette proposition de Clément Beaune, travailler 3 à 4 ans de plus pour financer les retraites. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Est-ce que selon vous c'est inéluctable de travailler plus? Bah écoutez, vous nous dites tout, 32-16. On parlera également de cette polémique Playmobil qui lance une édition Burger King, un peu comme les, vous savez, les Playmobil pirates ou château. Bah là tu pourras avoir des Playmobil dans un Burger King. Est-ce que c'est génial ou est-ce qu'au contraire bah, c'est choquant parce qu'on a déjà énormément d'obésité infantile, c'est pas la peine de pousser les enfants à aller vers ça. C'est moi Olivier, oui vous pouvez sourire comme ça. Y a-t-il des Playmobil bureau de tabac? Mais je ne crois pas. Y a-t-il des Playmobil bistrot?
Point de deal?
Non plus.
Playmobil point de deal oui. Avec seringue
voilà.
D'héroïne.
Bon, Playmobil. Voilà. Donc à un moment,
Playmobil.
Faut-il vraiment que nos enfants commencent à penser fast-food dès la plus tendre enfance? Nous en débattrons à midi et demi. Nous parlerons également d'Edouard Philippe qui veut du temps pour décompresser s'il est élu. D'accord, pas d'accord. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu cette conférence de presse de Roland Lescure. Bah, écoutez, si vous avez envie de passer un bon week-end, n'y allez pas. La croissance française 0,5 au lieu de 1. On s'est encore trompé dans les calculs. Bref, croissance dans le rouge. Hein. Éducation.
Qu'est-ce qui vire tous les gus de Bercy?
Ah ben, dans 8 mois. Morale en berne. Est-ce que vous songez à quitter la France?
M. Lescure a dû présenter sa démission, il a de mauvais chiffres.
Oui.
Elle, tu préfères?
Vous n'avez même pas entendu mon sujet d'avant.
Mais
Est-ce que vous songez à quitter la France? Il y a de plus en plus de Français.
Ah, on se bat.
Mais oui. Mais écoutez, vous voyez.
Les patriotes, on reste en France. Sincèrement, on se bat.
Excusez-moi, on a 5 points de chômage de plus que l'Allemagne. Vous êtes anormal.
Vous irez où?
T'as envie d'aller en Allemagne?
T'as envie d'aller vivre à Hambourg?
Bon, peut-être pas en Allemagne.
Ah, voilà.
Mais écoutez, je sais pas, ça se réfléchit. On est nuls. Bon.
Tu préfères?
Tu préfères le spécial cinéma? Nous allons faire film de Noël. Tu préfères Love Actually ou Maman, j'ai raté l'avion?
Love Actually.
Évidemment. Bah écoutez, il y a quand même un débat.
Tu mets de la musique.
Comédie.
Ah bah bien sûr.
Allez, 32-16 pour agir avec Estelle jusqu'à 15h.